Bonjour et bienvenue sur CKUT 90.3 FM dans ce qu'on appelle Montréal, territoire occupé. Alors aujourd'hui, nous allons parler à cette occasion de cette fête du 4 juillet d'un pays basé sur le génocide et l'esclavage, fondé et qui continue encore aujourd'hui le colonialisme, le génocide, le racisme, etc. Donc, et nous suivons aussi, genre, le 1er juillet, qui fut la fête de ce qu'on appelle le Canada, qui est aussi basé sur l'esclavage et le génocide. Enfin, les fêtes se succèdent des entités coloniales que sont le Québec, le Canada, les États-Unis, etc., etc. Alors, aujourd'hui, nous resterons Thérèse Namahoro. Est-ce que je prononce bien ton nom, d'abord?
Oui, tu prononces bien mon nom.
OK. Et nous allons parler de l'atelier qu'elle donne, qui s'intitule « L'ABC du racisme ». Alors, bonjour Thérèse.
Bonjour.
Donc, tu es aujourd'hui ici pour nous parler de cet atelier que tu as donné un peu dans la controverse au Salon du livre anarchiste et que tu redonneras ce jeudi 7 juillet, donc, à l'Université de Montréal. Je donnerai les coordonnées vers la fin. Et nous allons passer toute l'heure avec toi.
OK.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Dans le fond, moi, je suis Thérèse. Je suis immigrante. Dans le fond, ça fait 12 ans que j'habite au Québec maintenant. À part de ça, j'étudie en intervention en délinquance à John Abbott College. Puis je suis conférencière et intervenante de milieu dans une maison communautaire.
Et en quoi et pourquoi surtout t'en es venue à faire cet atelier, à donner cet atelier?
Comment la création de l'atelier est arrivée, dans le fond, c'est qu'il y avait le camp du cégep Marie-Victorin, le camp féministe du cégep Marie-Victorin qui avait besoin d'ateliers intersectionnels. Donc, ils m'ont proposé, voyant que j'étais active sur les médias sociaux, pour créer un atelier sur les enjeux touchant les personnes racisées. Donc, l'atelier a été fort populaire, puis on a décidé de le refaire pour le Salon du livre anarchiste. Puis, j'ai proposé ma candidature pour l'Université féministe d'été de l'Université de Montréal.
Okay. C'est quoi l'Université féministe?
Dans le fond, c'est une semaine entière d'ateliers sur plusieurs sujets. Donc, il y a moi qui donne un atelier sur les enjeux racisés. Il y en a qui donnent des ateliers sur le féminisme queer. Des tables rondes de discussion, etc., etc. Donc, c'est une semaine de discussion et d'ateliers de ce qui se donne à l'Université de Montréal.
Donc, cet atelier a toute une histoire déjà?
Oui, c'est ça. L'atelier a fait quand même beaucoup controverse. Dans le fond, au début, j'ai donné un peu dans l'anonymat. Il y avait une trentaine, quarantaine de personnes qui ont pris part la première fois. Ensuite, le Salon du livre anarchiste, qui est un plus gros événement, m'a proposé de le faire ce qui est arrivé, c'est que le Salon du livre anarchiste a fait a paru un billet sur le fait qu'il ne supportait pas l'appropriation culturelle, qui est quelque chose d'extrêmement violent pour les personnes racisées. Ça a fait vague, donc il y a beaucoup de masculinistes sur les médias sociaux qui en ont parlé. L'atelier s'est donné quand même relativement dans le calme. Il y a eu un contestataire qui est parti de lui-même quand il s'est senti attaqué, dit-il. Puis, je pense que les gens, il y avait beaucoup de participation. Habituellement, l'atelier, la première fois que j'ai donné, il avait duré 4 heures. Et la deuxième, 2 heures. Et la deuxième fois a duré le double parce que les gens participaient beaucoup. Il y a des gens qui sont restés tout le long des 4 heures. Sinon, il y avait des gens qui restaient périodiquement.
Au-delà de la controverse, puis des gens qui refusent de questionner leurs privilèges, entre autres, est-ce que... Bon, c'est une question très, très large, mais nous allons l'approfondir pendant toute l'heure. Qu'est-ce que c'est que le racisme pour toi?
Le racisme, c'est un système d'oppression qui touche les personnes qui subissent ce processus de racialisation. Donc, personne ne naît racisé, on le devient dans un processus. Dans le fond, ce système touche les personnes par des inégalités systémiques. Donc, ça peut être la discrimination à l'emploi, la discrimination au logement, mais aussi ça peut prendre forme de racisme ordinaire avec des microagressions, par exemple, qui visent à déshumaniser les personnes racisées et les essentialiser, donc les mettre en groupe. Par exemple, l'arabe va être le terroriste, le noir, le membre de gang de rue. Tandis que les personnes qui ne subissent pas ce processus de racialisation-là vont être individualisées. Donc, un blanc qui commet un crime, par exemple, Magnotta, ne va pas représenter l'ensemble des blancs, mais seulement Magnotta, une horrible personne. Donc, c'est un processus assez complexe qui est très tissé dans la société, qui a fondé la majorité des sociétés occidentales et qui est... propulsé, si je peux dire, par la suprématie blanche, donc la croyance que la blancheur, c'est la vérité, c'est ce qui est bon, ce qui est pur. On trouve des exemples de ça assez évidents. Par exemple, quand on pense aux quartiers, aux bons quartiers, aux bonnes écoles, qui sont des écoles majoritairement remplies de personnes blanches, et les quartiers, les mauvais quartiers sont des quartier majoritairement rempli de personnes racisées.
Qu'est-ce que ça dit sur ici, le Québec, le Canada, les États-Unis dont je parlais au tout début?
De mon expérience, je pense que j'ai quand même... J'ai grandi à Québec avant de déménager à Montréal cette année, donc Québec est une ville très blanche, très conservatrice. Je pense que les gens ont dans l'idée qu'ils vivent dans une société post-raciste, qui est totalement absurde selon moi parce que les statistiques montrent très clairement les inégalités raciales que les personnes racisées vivent. Donc, j'ai été confrontée à beaucoup de racisme et surtout beaucoup de déni du racisme. C'est ça que je trouve qui arrive beaucoup dans les sociétés comme le Québec, le Canada, les États-Unis. C'est que les gens ont dans l'idée que nous vivons dans une société post-raciste, donc, et ne refusent de voir les couleurs, et ne voyant pas les couleurs, ils refusent de voir les inégalités reliées à notre couleur de peau, au fait que nous sommes racisés.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas très familier avec ce concept de post-racisme.
Le post-racisme, dans le fond, c'est l'idée que nous vivons dans une époque où le racisme n'existe plus, très rare, disons, et que les seuls racistes vont être les personnes conscientes de leur racisme. Donc, pour qu'une personne soit raciste, il faut qu'elle soit consciente qu'elle fasse des gestes racistes, puis qu'elle les fasse dans l'intention d'être raciste et de blesser les personnes racisées, et que cette personne-là pense que, à cause de sa couleur de peau, et elle est foncièrement supérieure aux personnes, d'autres groupes d'individus. Donc, les personnes d'où je vais à Québec et même ici à Montréal, beaucoup de personnes pensent que nous vivons dans une époque où il n'y a plus réellement d'inégalité raciale et que les personnes racisées ont juste à travailler plus fort. Donc, il y a ce concept de méritocratie. Le travail rapporte le succès. Et donc, si les personnes racisées ont simplement moins de succès, un taux de chômage plus élevé, c'est simplement qu'elles ne travaillent pas assez fort, ce qui est totalement faux.
Mais comment on fait pour ne pas voir le racisme qui existe ici, aujourd'hui?
J'imagine que les gens... parce que les gens blancs, étant donné qu'ils ne sont pas racialisés, ils peuvent vivre sans penser à leur race, sans penser à leur couleur de peau et aux implications sur le quotidien. Donc, ils ne voient pas qu'ils sont surreprésentés dans les médias et en politique. Par exemple, quand on pense qu'à Montréal, il y a 3 ou 4 députés sur plus d'une centaine. Puis, au Québec, la situation n'est pas mieux. Il y a 5 députés racisés sur 125. Donc, il y a une invisibilisation des personnes racisées et dans les médias et dans la politique, mais aussi dans les postes d'administration. Donc, il y a une très forte autorité blanche qui... sévit dans la province, puis qui fait que les voix des personnes racisées sont rarement entendues. Puis même si une personne racisée se trouve sur un conseil d'administration en politique, les voix majoritairement blanches vont toujours voter dans leur intérêt et pas dans les intérêts des personnes racisées.
Donc, c'est occulté, c'est ignoré par le fait même qu'on est blanc.
Ouais, c'est
et donc, on refuse de voir que notre simple existence en tant que blanc opprime des personnes.
Ouais, exactement. C'est, je sais que le C. Puis beaucoup de gens ont tendance à croire que ce sont les étiquettes blanc, noir, asiatique, etc. qui font qu'il y ait du racisme. Mais au contraire, ces inégalités raciales issues du racisme qui causent qui causent le racisme parce que c'est pas le fait que moi je suis noire, que moi je suis une femme noire et que j'admets être une femme noire et que toi tu es un homme blanc qui fait que nous avons des différences. C'est le fait qu'il y a un système qui fait que en tant qu'homme blanc, tu vas être avantagé par rapport à moi, juste par pour le fait que la blancheur est considérée comme ce qu'il y a de correct dans la société.
Donc, l'expression « je suis pas raciste » ou « je suis raciste », ça individualise un problème qui ne l'est pas en réalité. Même si je dirais pas quelque chose qui serait raciste, je peux être raciste par le fait que j'appartiens à un système qui l'est.
Oui, c'est ça, parce que le racisme, c'est pas le racisme. Je dis toujours que le racisme est la responsabilité de tous et toutes, parce que le racisme est la raison pour laquelle le racisme existe encore de nos jours, c'est qu'il est reproduit par des petits gestes du quotidien et par des qui finissent par devenir de plus grands problèmes par des gens. Donc, tout le monde est raciste en société et nous avons tous une responsabilité vis-à-vis le racisme. Donc, c'est pas le racisme, les gens ont tendance à croire que c'est simplement le fait d'injurier une personne racisée parce qu'elle est une personne racisée ou de faire partie d'un groupe de haine des personnes racisées comme le KKK, par exemple. Mais c'est beaucoup plus complexe comme système où les personnes racisées vont simplement avoir moins d'opportunités, moins de représentations, puis une représentation faussée quand vient le temps d'avoir une représentation de eux-mêmes en société. Ce qui fait que les Blancs ont une fausse idée de supériorité qui est ancrée en eux-mêmes. Donc, ça va des médias, aussi dans les livres d'histoire où on parle très peu des différentes vagues d'immigration qui ont aidé à créer le Québec que nous avons aujourd'hui, où on parle très peu des nations autochtones qui ont été importantes, où on romancise la colonisation. Il y a plusieurs historiens que j'ai lus qui appelaient la colonisation au Québec et aux États-Unis un succès, puisque ce sont désormais les Blancs qui sont majoritaires et de loin au Québec, au Canada, aux États-Unis. Alors que ça n'a pas été un succès, il y a des centaines de milliers et de millions de vies qui ont été laissées derrière tout ça, des vies de personnes racisées. Et le travail non rémunéré des personnes racisées qui a fondé ces nations. Donc c'est pas seulement les Blancs. Les Blancs, j'entends souvent que les Blancs ont fondé ce pays, que c'est à cause de leur colonisation que c'est maintenant comme c'est, alors qu'ils oublient les 16 000 esclaves noirs au Québec dont on ne parle jamais dans nos livres d'histoire au secondaire, au cégep, à l'université, qui sont souvent oubliés. D'ailleurs, le rappeur Webster rappe sur l'histoire du Québec, puis vous pouvez aller écouter ses chansons parce qu'il relate l'histoire du Québec qui est oubliée et ignorée volontairement pour garder les mêmes personnes au sommet de la pyramide sociale.
On va l'écouter un peu plus tard d'ailleurs. Mais tu parlais des manifestations quotidiennes et dans le quotidien, comment ça se passe?
Dans le quotidien, en tant que militante, moi je suis plus exposée à la haine parce que justement, comme je dis souvent, les personnes qui réclament des droits égaux envers les personnes qui ont des privilèges en société ne sont pas bien perçues. Il y a beaucoup d'agressivité, de ressentiment, etc. Donc, moi, je me fais attaquer quotidiennement. J'ai des injures directes. Mais sinon, au quotidien, quand je suis pas une militante, quand les gens savent pas que je suis militante, les microagressions, c'est plus me demander « Mais d'où est-ce que tu viens ?» pour savoir quel stéréotype m'imposer. Spécialement parce que je viens du Rwanda, donc les gens ont cette insensibilité de me demander « Est-ce que t'es Hutu ou Tutsi ?» de toucher mes cheveux, ma peau. Donc, les personnes racistes sont déshumanisées par ce processus-là. de constamment le toucher parce qu'on dit que vous avez pas le droit à une bulle parce que vous êtes des objets de distraction pour les personnes blanches. Donc ça m'arrive souvent. Sinon, nier le racisme, comme j'ai dit tout à l'heure, penser que l'on vit dans une société post-raciste, penser que c'est moi la raciste parce que je reconnais qu'il y a des races sociologiques qui ont été créées dans le but de maintenir la supériorité de la race blanche, etc.
Alors, nous sommes toujours avec Thérèse Nama-Oro et nous parlons de cet atelier et du racisme, particulièrement d'atelier ABC du racisme, qui aura lieu jeudi, donc, à l'Université de Montréal. Je vous donnerai les coordonnées et tout ça à la fin de l'émission. Vous êtes aussi toujours, comme il faut que je le rappelle, sur ckut.ca et sur le 90.3 FM dans ce qu'on appelle Montréal. Johnny Georgiagi en Ganingaga. Alors, nous parlions du racisme et du colonialisme et de la fondation un peu de ce qu'on appelle le Québec, le Canada, même les États-Unis. En tout cas, plein, la plupart des pays impérialistes sont basés sur le racisme et le colonialisme. Mais pour revenir ici, comment t'entrevois les liens entre le racisme et le colonialisme?
Dans le fond, le colonialisme, c'est assez complexe comme histoire, comment c'est arrivé. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que au début... il y a toujours une mode en Europe de classifier les gens selon leurs traits. Donc, il y a la mode du racialisme qui est arrivée et un pseudo-scientifique a classifié les races en quatre races. Donc, les Mongoliens, les Éthiopiens, les Caucasiens et les Autochtones. Donc, ils sont servis de ces facteurs-là pour déterminer que les Caucasiens qui sont les Blancs, en fait, mais appelés Caucasiens à tort parce que les Blancs ne sont pas des Caucasiens, pour dire qu'ils étaient plus intelligents que les autres races. Et donc, il fallait qu'ils aillent dans les autres territoires et qu'ils purifient les gens et les soumettent à leur mode de vie parce que leur mode de vie était inférieur. Ils n'étaient pas considérés comme des vrais hommes, ils étaient considérés comme des sous-hommes. Donc, c'est dans cette idée-là que les Blancs sont allés dans les autres pays, donc spécifiquement la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, pour coloniser les autres pays et prendre leur territoire de force, tuer leurs individus ou les soumettre à l'esclavage. Donc, ils ont pris les terres des Autochtones et Aborigènes du monde entier. Ensuite, ils ont décidé de fonder des terres dans les territoires qu'ils avaient envahis, spécifiquement le Québec, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et donc, comme ils avaient besoin de main-d'œuvre facile, ils disaient « Bon, les autres sont inférieurs à nous ». Nous sommes supérieurs, ils ne sont pas humains, ils ne ressentent pas la douleur parce qu'ils ne sont pas humains de toute façon. Donc, ils y sont allés spécifiquement prendre les personnes qui habitaient sur ces territoires-là, les soumettre en esclavage, et ils ont pris aussi ce motif-là pour aller dans les pays d'Afrique avec l'utilisation de la violence pour voler des personnes racisées, donc noires, spécifiquement aux États-Unis, pour les amener en Amérique et les faire travailler pour gratuitement pendant des années et des années et des années pour créer la richesse, leur créer de la richesse parce qu'ils puissent travailler pour gratuitement. Et ensuite, ils ont installé une espèce de culte du rêve américain, de la richesse. Et donc, pour arriver à ça, c'était de la méritocratie pure et dure. Donc, faut que tu travailles dur pour arriver à ce que tu veux dans la vie. Même si nous, on a utilisé des personnes racisées pour arriver à nos fins. Et ensuite, on les a libérés. Puis on a commencé à dire qu'ils étaient lâches, alors que leurs ancêtres, puis toute leur famille qui était depuis habitants des États-Unis ou du Canada, etc. Depuis des années, avait travaillé gratuitement pour fonder la richesse de ces personnes blanches-là. Donc, ce qui fait que maintenant, les personnes blanches sont en moyenne plus riches que les personnes racisées, c'est que on dit en anglais « old money is good money », dans le sens que l'argent qui est très ancienne, je dirais, a eu des intérêts depuis le temps. Donc, les intérêts ont eu le temps de proliférer et de faire plus d'argent. Donc, ce qui fait que ces personnes-là sont systématiquement gardées au sommet de la pyramide raciale, c'est qu'ils détiennent plus de fonds du fait même qu'ils ont exploité des personnes racisées pour arriver à créer ces fonds-là.
Et en plus de cette oppression matérielle qui est l'esclavage, il y a aussi toutes les autres façons de déshumaniser. Est-ce que tu peux entrer plus en détail sur comment ils ont déshumanisé les personnes noires particulièrement?
Ils ont déshumanisé en exploitant leur corps, par exemple, en prenant les femmes noires pour comme nourrice pour les enfants blancs, en exploitant le corps des femmes noires sexuellement avec des viols répétés, en utilisant les esclaves comme esclaves sexuels. Il y a aussi ce qu'on appelait les wet nurses, que c'est des femmes noires qui devaient allaiter les enfants des blancs gratuitement pendant des jours et des jours. Puis il y a aussi eu l'appropriation des idées des personnes racisées, parce que toutes les personnes racisées appartenaient à leur maître. Donc, ce qui fait que toutes les idées qui venaient des personnes noires appartenaient à leur maître. Donc, les personnes blanches ont exploité les idées des personnes racisées pour créer des inventions qui sont maintenant attribuées aux personnes blanches, alors que ce sont des personnes racisées qu'ils ont créées. Donc, on a réellement une petite idée de quelles inventions sont réellement attribuables aux personnes blanches. Et quelles technologies sont réellement attribuables aux personnes blanches, parce qu'ils ont pris le savoir des personnes racisées, l'ont déclaré invalide et l'ont utilisé à leur tour pour leur profit.
Donc on voit par là que les civilisations blanches basées sur l'esclavage et aussi le génocide des Autochtones sont basées sur le vol. Et parmi ce vol, il y a aussi la question de l'appropriation culturelle.
L'appropriation culturelle, c'est c'est une question complexe. C'est dans le fond quand un groupe dominant prend un objet, un élément spirituel, culturel d'une culture dominée pour son profit personnel, tout en continuant d'opprimer la culture dominée pour la pratique de cette culture. Donc, on peut penser, par exemple, au fait que les Blancs, surtout dans la culture hippie, qui ont approprié les locks pour leur intérêt personnel, alors que les personnes noires aux États-Unis, de nos jours, continuent de se faire renvoyer, refuser des emplois parce qu'ils portent des locks, par exemple, jusqu'à l'année passée, les locks, les tresses et autres coiffures traditionnellement noires étaient interdites dans l'armée américaine. Même ici, on a des événements de coiffures traditionnellement noires comme les tresses qui font renvoyer des gens de nos jours, comme par exemple une employée du Zara qui a récemment été renvoyée parce qu'elle portait des tresses pour protéger ses cheveux. Puis souvent, ce qui arrive avec l'appropriation culturelle, c'est que les gens ne comprennent pas le sens de l'élément dans la culture dans laquelle ils approprient. Donc, ils prennent l'élément et le vident de son sens, le matérialisent pour en faire du profit. Puis ensuite, ils oppriment les personnes racisées pour continuer de pratiquer leur culture.
Et tout ça, ça se répand à travers différents événements culturels blancs, entre autres comment les Blancs vivent l'Halloween et beaucoup d'autres événements. Là, l'Halloween, c'est comme devenu un classique là, pour parler de l'appropriation culturelle.
Oui, c'est ça. L'Halloween, dans le fond, ils prennent des éléments. Il y a beaucoup d'appropriation culturelle à l'Halloween parce que des gens qui se mettent des blackface, des yellowface, des redface pour se déguiser en personnes racisées, alors que toute l'année nous existons, toute l'année nous continuons de célébrer nos cultures et les faire proliférer. Puis ce jour-là, nous devenons des costumes, nous devenons des déguisements pour rire, pour s'amuser, alors que nous sommes opprimés pour exister dans la vie parce que nous sommes des personnes racisées. Alors que cette journée-là, c'est donc cool, puis vraiment vraiment amusant de se déguiser en personne racisée.
Mais il y a des événements comme ça singuliers, mais il y a aussi des événements qui durent toute l'année, en fait. Des gens qui ont des pratiques d'appropriation culturelle qui sont à l'année longue.
Oui, c'est très courant.
Est-ce que tu peux nous en
parler
plus en détail?
C'est très courant. Donc, je dirais les lox, comme on a nommé, le port du bindi, qui est très populaire. Récemment...
C'est quoi le bindi?
Le bindi, c'est le point rouge au milieu du front des femmes d'Asie et indiennes. Donc c'est ça. Il y a aussi récemment MAC Cosmetics qui a sorti une collection inspirée directement de la culture autochtone et qui a dit que ça n'était aucunement inspiré de la culture de la culture autochtone, puis a nié totalement l'inspiration alors que c'est très évident. N'importe qui a déjà regardé la télé ou lu un peu à propos des autochtones, c'est que ces designs-là sont directement inspirés de la culture autochtone. Sinon, il y a aussi beaucoup d'éléments comme par exemple le port de la coiffe amérindienne qui est très commun dans les festivals, alors que cette coiffe-là est une coiffe qui doit être gagnée par les membres des tribus. Les exemples sont innombrables. Il y a aussi le yoga qui est pratiqué comme sport alors que c'est un mode de vie. Donc, etc., etc. Toutes ces appropriations-là fait qu'il y a une dénaturation des symboles importants pour les personnes racisées.
Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Non, 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 c'est pas de l'appropriation, c'est une appréciation. »
Dans le fond, c'est que si une personne racisée va te dire « Tu me manques de respect en volant des éléments de ma culture, en ne les comprenant pas, en faisant du profit avec ces éléments de culture-là, et que tu réponds « Non, non, c'est l'appropriation », ça veut dire que tu considères que le style pour toi, ou le fait de vider de cet élément culturel-là de son sens, est plus important que la vie de la personne racisée. Et le style est plus important que détruire la suprématie blanche qui t'avantage clairement pour te mettre dans une position où tu te sens tellement en droit envers cet objet-là que tu silences la voix de la personne racisée qui te dit que c'est nocif ce que tu fais, c'est violent ce que tu fais. Puis c'est ça, dans le fond. Personnellement, moi, j'ai pas de pouvoir sur ce que les gens décident de faire avec leur corps. Sauf que ce que je fais personnellement en tant que personne racisée, c'est que les personnes qui considèrent que le style est plus important que détruire la suprématie blanche qui les avantage clairement ne sont pas prêts à discuter de privilèges, renoncer à des privilèges pour en donner à des personnes racisées. Donc on peut tout simplement pas les considérer comme des alliés.
Puis il y a aussi des gens qui vont dire « Ouais, mais il y a des personnes racisées, puis ça s'est vu, entre autres, sur la question des dreadlocks, qu'il y a des gens, justement, il y a des personnes racisées qui disent « Non, 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 c'est pas grave, c'est bien correct. »
Moi, je réponds à ces personnes-là que, dans le fond, qui leur a donné le droit de dire quelle personne racisée était en position d'autorité sur les personnes racisées. On est, justement, comme je dis, les personnes racisées sont essentialisées, donc les gens ont tendance à dire « Oui, mais mon ami racisé m'a dit que c'était correct. » Ouais, mais ton ami racisé, c'est pas moi, c'est pas toutes les personnes racisées. Ton ami racisé, c'est lui-même, il a son avis pour lui-même, alors pratique ce que tu veux autour de ton ami racisé, mais va pas prendre son opinion pour du cash autour de toutes les autres personnes racisées, parce que nous sommes tous des individus, on a toutes nos opinions. J'étais en désaccord avec des personnes racisées sur l'appropriation culturelle. Ma vie est pas terminée. Ils vont dire ce qu'ils veulent à leurs amis, sauf que je considère que moi, l'appropriation culturelle, c'est une pratique inacceptable. Puis que les personnes qui choisissent de la pratiquer quand même, ça va simplement pas être mes alliés.
Puis après ça, il y a des gens qui vont renverser cette, ce que tu viens de dire, puis dire, ouais, mais il y a des gens qui disent c'est pas grave. Pourquoi on respecterait pas le fait que c'est pas grave plutôt que ce que tu viens de dire? Moi, je suis plutôt de ton avis, personnellement, mais il y a plein de monde qui vont dire des choses comme ça.
Ces personnes-là, parce que dans le fond, même s'il y a des personnes racisées qui disent que, oh, c'est correct, tu sais, c'est pas grave, moi, ça me fait rien, ça change pas que, dans les faits, les conséquences sont... On peut revoir les conséquences parce que les personnes racisées continuent d'être traitées comme de la marde pour pratiquer leur culture, pour la faire proliférer, alors que les personnes... ça devient seulement nice quand c'est une personne blanche qui le fait. Comme par exemple Eminem qui a commencé à faire du rap. Les Blancs ont commencé à aimer du rap seulement quand Eminem, Iggy Azalea, Macklemore ont commencé à faire du rap, alors que nous avons toujours utilisé le rap pour faire proliférer notre culture, affirmer notre identité. Mais les personnes racisées, c'est futile quand ils font.
Donc, nous parlons de racisme aujourd'hui dans différentes dimensions. Et ça va conduire à jeudi à l'atelier l'ABC sur l'antiracisme donné par Thérèse et Lourdenie Jean. Donc, avant que je l'oublie, ce sera au pavillon Jean-Briand à la salle B4225, donc jeudi à 15h30. Alors, avant la pause, nous parlions d'appropriation culturelle. Nous pouvons aussi parler de comment on est forcé à adopter la culture dominante.
Dans le fond, les personnes racisées, ils sont confrontés quotidiennement à un standard de beauté eurocentrique, donc qui valorise les traits blancs au-dessus des autres traits. Donc, on peut voir ça juste en googlant beauté sur Google. On va tomber sur des images majoritairement sur des pages et des pages et des pages de femmes blanches. Puis, étant exposés à ça, nous sommes confrontés à seulement un seul standard de beauté qui est très loin de notre idéal. Donc, le standard de beauté de nos cultures ne sont pas valorisés en société. Nous sommes forcés à atteindre un standard de beauté occidentale pour pouvoir avoir plus facilement accès à des emplois, par exemple, à avoir l'avoir plus facile dans la vie amoureuse, par exemple, etc., etc. Donc, par exemple, les femmes noires sont souvent obligées de s'aplatir les cheveux parce que les cheveux plats ou légèrement bouclés sont le standard ici. Donc, nous devons porter des perruques, s'aplatir les cheveux, mettre des produits chimiques extrêmement nocifs dans nos cheveux pour pouvoir les aplatir et être plus acceptable pour les Blancs dans la recherche d'un emploi. Moi, personnellement, ça m'est arrivé quand j'ai eu des entrevues récemment pour être plus acceptable, je m'aplatissais les cheveux. Sinon, aussi, les femmes autochtones, toutes les femmes racisées sont confrontées à ça spécifiquement, le fait que la peau plus pâle est valorisée, donc les femmes racisées ont tendance à acheter des crèmes éclaircissantes qui sont extrêmement toxiques pour la peau et qui sont la cause de nombreux cancers de la peau et brûlures pour s'éclaircir le teint et devenir ainsi plus jolie. Donc ça sévit dans plusieurs pays d'Afrique, donc on dit souvent « Ah, mais... » Si un blanc va dans un pays d'Afrique, il va pas être confronté au même standard. Non, c'est la suprématie blanche est globale. C'est vu partout. En Asie, c'est la même chose. En Asie, surtout en Asie du Sud, c'est assez rare de trouver une crème sur le marché qui ne contient pas de produits éclaircissants dans le mélange. Donc, c'est tout des standards. Spécifiquement, les femmes sont confrontées à ça. D'atteindre le modèle de beauté occidentale pour être plus accepté en société, subir moins de racisme. Donc, plus on se rapproche de notre culture, moins on va avoir d'opportunités, par exemple, risquer de se faire envoyer pour des cheveux, pour plein de raisons absurdes, etc., ou avoir moins d'opportunités d'emploi. Et plus on se rapproche du standard de beauté occidentale, du mode de vie occidental, plus on va avoir des meilleures chances. Et si on s'assimile dans la culture, c'est on a des meilleures chances à survivre au racisme systémique. Donc, on peut pas approprier la culture dominante justement parce que les personnes racisées sont forcées à s'assimiler dans la culture à des fins de survie. Également, on peut pas approprier les personnes racisées vivant en Occident ne peuvent pas s'approprier la culture parce que notre culture est aussi celle dans laquelle on grandit. Donc, ayant vécu ici, les gens me disent souvent « Ah, oh, mais tu t'appropries le français en parlant français. » Ils oublient que les Belges ont colonisé l'Afrique et que je parlais déjà français avant parce qu'ils nous ont obligés à parler français. Les gens me disent « Ah, oh, tu t'appropries nos noms. » C'est les Belges qui nous ont forcés à adopter leur nom. Ou sinon, t'appropries des jeans, etc., etc. Sauf que la culture occidentale est valorisée globalement parce que c'est l'idéal. Hollywood est l'idéal, donc nécessairement, globalement, toutes les personnes racisées ou blanches devraient atteindre cet idéal-là.
Comme on a forcé la majorité, la très grande en fait, majorité des Autochtones ici à parler français.
Exactement. C'est ça, les Autochtones ne parlent pas français parce qu'ils en ont envie, ils parlent pas anglais parce qu'ils en ont envie, ils parlent l'anglais parce qu'ils ont été mis dans des pensionnats jusqu'en 1996 pour les blanchir. Donc, comme il disait, ils voulaient enlever l'autochtone de la personne. Donc, enlever totalement leur identité, ce qui fait qu'il y a un prix social actuel dans plusieurs communautés autochtones à cause des violences physiques, psychologiques et sexuelles qu'ils ont vécues dans les pensionnats.
Tu as commencé à nous parler de la violence envers les femmes noires. Ça nous amène aussi à la question du féminisme.
Oui. Dans le fond, moi, je me considère féministe intersectionnelle, donc une afro-féministe spécifiquement, parce que avec cet atelier, je concentre la majorité de ma lutte pour l'égalité pour les personnes racisées, mais je suis pour l'égalité de tous les groupes. Donc, je milite pour l'égalité des pour tous et toutes. Et donc, ça inclut les personnes LGBT, les personnes handicapées, les femmes, les hommes, tout le monde, toute personne qui est opprimée, je veux qu'elle atteigne un niveau d'égalité, d'égalité justement. Puis, dans le fond, mon intersectionnalité, comment je la vis, c'est que je veux que les personnes qui vivent les problématiques soient les premiers acteurs, les première personne à l'avant des marches pour revendiquer leurs droits et pas qu'il y ait des personnes qui parlent à leur place. Donc, on veut vraiment que les personnes concernées parlent pour elles-mêmes. Donc, je veux pas que les personnes cis parlent pour la réalité des personnes trans parce qu'ils ne sauront pas, ils sauront pas c'est quoi la réalité au quotidien des personnes trans. Comme je veux pas que les personnes blanches parlent à ma place par-dessus moi, je veux que les personnes utilisent leurs privilèges pour amplifier les voix des personnes marginalisées, puis les rendre sur la place publique, puis dire on vit ces inégalités-là, puis eux aussi vivent ces inégalités-là, puis on réclame l'égalité pour tous, on réclame le fait de sortir de la marginalité.
Donc aussi tu parles de la question, de la critique du féminisme blanc dans ton atelier.
Dans le fond, le féminisme blanc, explication comme sommaire, c'est le féminisme qui revendique l'égalité majoritairement pour les femmes blanches cis de la classe moyenne, donc dans le fond, c'est un féminisme qui ne combat que le sexisme, mais le sexisme vécu par les femmes blanches cis hétérosexuelles, etc., etc. Donc je combats ce féminisme-là parce que il n'adresse pas comment en tant que femme je peux vivre plusieurs oppressions. Donc je suis une femme noire queer et neuroatypique. Donc je suis sur plusieurs spectres d'oppression. Mais ce féminisme-là blanc ne reconnaît pas que je peux être opprimée pour plusieurs facteurs, puis comment ces oppressions s'additionnent, dans le fond. c'est pas, je ne vis pas seulement, je ne vis pas que du racisme ou du sexisme. Bon, le racisme est souvent sexualisé et le sexisme est souvent teinté de racisme. Donc, ainsi, etc., etc. Donc, l'analyse intersectionnelle développée par Kimberly Crenshaw en 1989, donc une femme noire queer, est une méthode d'analyse sociopolitique qui révèle comment, qui étudie comment les oppressions peuvent s'additionner ensemble et que des personnes peuvent vivre plusieurs oppressions simultanément.
On parle beaucoup d'oppression parce que c'est super important d'en parler, puis que je voulais qu'on aille en détail avec toi aujourd'hui sur le racisme. On pourrait parler aussi, d'une manière positive, des mouvements de résistance, des mouvements de lutte qui sont quand même assez nombreux, et particulièrement dans les dernières années.
Oui, c'est ça. Plusieurs personnes ont été présentes sur la scène pour réclamer des droits pour les personnes racisées, notamment Haroun Boisy, William Prosper, Émilie Nicolas, Marie-Anne Lopez, le CRAM. Donc, plusieurs de ces acteurs-là sont là constamment, jour après jour, pour réclamer l'égalité pour les personnes racisées, mais d'autres acteurs aussi sont là pour réclamer des droits égaux pour d'autres groupes, par exemple, pour les personnes trans, on a Sophie Labelle, Caroline Gascon-Trottier, si je nomme bien son nom. Donc, ces personnes-là, on a des personnes qui sont actives tous les jours, tous les jours et qui s'impliquent tous les jours pour réclamer des droits égaux. Donc, faut pas que ces personnes-là soient oubliées parce que nous ne sommes pas les premiers à faire ça et nous ne serons pas les derniers parce que le sexisme, le racisme, la transphobie, l'homophobie, c'est pas prêt de disparaître. Juste le fait d'exister est un affront au système d'oppression. Donc nous existons, mais nous opposons aussi résistance au lieu de vivre avec parce que on peut. C'est pas que pour nous parce que je ne connaîtrais sûrement pas la fin du racisme. C'est pour les générations à venir, pour donner des opportunités aux générations à venir. Parce que c'est, il y a aussi, derrière moi, il y a tout le travail des femmes et des hommes qui se sont battus pour des droits égaux.
Dans ton atelier, tu parles aussi de la répression policière, qui a amené aussi plusieurs mouvements importants dans les dernières années, entre autres Black Lives Matter, mais beaucoup d'autres aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler plus de ce qui se passe en ce moment par rapport à ça?
En ce moment, je pense qu'au Québec, on vit une situation effroyable, au Québec et au Canada. Les taux révèlent que dans les 10 dernières années, l'incarcération de masse des personnes noires a augmenté de 90% et des personnes autochtones a augmenté de 46,2%. Donc, alors que celle des Blancs a baissé, tandis que quand on regarde dans les statistiques, comme j'ai fait en étudiant en intervention en délinquance notamment, on regarde que les taux de criminalité sont pas supérieurs pour les personnes racisées. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça crée un faux sentiment des Blancs que les personnes racisées sont dangereuses à éviter, que les mauvais quartiers sont ceux des personnes racisées, alors que c'est totalement faux. Les personnes racisées ne commettent pas plus de crimes. Par exemple, pour la simple offense de possession, de consommation ou de vente de marijuana, les personnes racisées sont fait arrêter 7 fois plus que les personnes blanches, alors que la consommation est exactement la même. Donc ça, je pense qu'il faut que ce soit une problématique qu'il faut adresser. Faut arrêter de tuer les personnes racisées, comme par exemple Jean-Pierre Bonny qui a été victime... d'une balle de caoutchouc des policiers, mais il faut aussi arrêter d'incarcérer les personnes racisées simplement parce qu'elles sont racisées. Oui, les personnes qui commettent des crimes devraient trouver un moyen de lutter contre la criminalité comme dans toute société donnée, mais je pense pas que ce soit dans l'incarcération de masse des quartiers des personnes racisées et dans la répression des quartiers racisés, parce qu'une étude de l'Université McGill en 2012-2013 a révélé que la raison pour laquelle il y a une plus forte présence policière dans certains quartiers, c'est simplement parce que plus de personnes noires ou autochtones ou racisées qui habitent dans ces quartiers-là, pas parce qu'il y a plus de criminalité.
Parmi les nombreux projets des gens qui luttent justement contre le racisme, il y a la commission qu'on entend beaucoup parler sur le racisme. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait une commission permanente. Je veux que la commission soit permanente parce que le racisme ne veut pas arrêter. En Ontario, ils ont créé une commission permanente pour lutter contre le racisme systémique. Ils ont reconnu qu'il y avait un problème de ce côté-là. Tandis que nous, là, du côté du Québécois, la commission Bouchard-Taylor, qui était censée donner une voix aux personnes pour avoir des accommodements raisonnables, a été tablettée. Donc, ça veut dire que nos gouvernements, ce qu'ils nous disent avec ça, c'est que ils veulent seulement calmer les personnes racisées, mais pas réellement faire des mesures pour qu'on ait une réelle égalité. Donc moi, je souhaite qu'il y ait une commission, puis qu'il y ait une équipe d'experts qui soient réunis dans la matière, dont notamment Gérard Bouchard et Charles Taylor, qui dénoncent le racisme systémique depuis des années, puis qu'ils ont un fort taux de mécontentement de ce que j'ai remarqué dans la population, justement parce qu'ils réclament des droits égaux pour les personnes racisées.
Donc la lutte continue. Si les gens veulent continuer à s'informer, à se mettre au courant, à lutter, est-ce qu'il y a des façons, des références que tu peux leur donner?
Je conseille, il y a la YouTubeuse Francesca Ramsey qui sort des capsules informatives. Donc, à propos du racisme, il y a la YouTuber Cat Black. Donc, ça, c'est en anglais. Sinon, il y a beaucoup d'informations sur Everyday Feminism, sur le racisme systémique. Il y a des articles parus dans le Huffington Post comme « Je ne suis pas raciste », mais de William Prosper, « Le racisme systémique en 9 questions » de Haroun Boisy. Donc, les informations sont là. C'est simplement qu'il y a une ignorance organisée dans la société qui fait que les gens en situation de privilège n'ont aucun intérêt à connaître ces informations-là. Ils ont tout intérêt à garder leur privilège. Donc, il faut que ce soit des personnes vraiment motivées pour connaître en quoi nous vivons des inégalités importantes dans la société québécoise. Donc, aussi, ce que ces personnes peuvent faire, c'est écouter les personnes racisées, écouter leurs témoignages, puis se taire quand vient le temps d'écouter les personnes et pas commencer à discuter de l'expérience des personnes racisées, invalider leur expérience, mettre ses sentiments à la première place lorsqu'on parle des personnes racisées, surtout quand t'es en situation de privilège. T'sais, des choses comme ça qui font que t'es un meilleur allié. Moi, je trouve pas que c'est difficile d'être un bon allié, c'est juste faire en sorte que les voix des personnes racisées ou marginalisées dans tout combat sont entendues.
C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais par contre, les gens peuvent aller te voir le jeudi 7 juillet 2016 à 15h30 au pavillon Jean Briand à la salle B 4225. Avec ta camarade Lourdes-Nijan. Donc, vous présenterez un ABC de l'antiracisme, une conférence sur les luttes antiracistes et comment elles s'inscrivent spécifiquement dans la démarche féministe. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.